Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Els ciutadans de Catalunya ens hem guanyat el dret a tenir un estat independent que es constitueixi en forma de república.
Bonjour à tous. Après le chaos en Catalogne, le référendum sur l'indépendance interdit par Madrid s'est finalement déroulé hier dans un climat de violence extrême. Bilan, près de 900 blessés. Les images des unités anti-émeutes chargeant la foule à coups de matraques et de tirs de balles en caoutchouc ont fait le tour du monde, au grand dam du gouvernement espagnol qui a perdu là une possibilité de renouer le dialogue. Les résultats communiqués donnent un taux de participation de 42,3% et 90% de oui pour l'indépendance. C'est dans ce climat que la mobilisation se poursuit. Dès demain, près de 44 organisations ont appelé à une grève générale. Les syndicats, mais aussi de puissantes organisations citoyennes comme l'ANC, l'Assemblée nationale de Catalogne, qui travaille depuis des années hors des partis politiques pour un État catalan. À Barcelone, Diane Cambon nous explique pourquoi cette ANC est incontournable.
Pour les partisans de l'indépendance, l'Assemblée nationale de Catalogne, ANC, ce mouvement citoyen transversal qui réunit quelques 30 000 affiliés issus de presque toutes les professions, constitue l'essence même du mouvement séparatiste, comme l'explique Humbert, un fonctionnaire et militant de l'Assemblée.
C'est ça qui dérange tant Madrid et le reste de l'État. Ceux de la capitale voudraient faire croire que tout le processus indépendantiste n'est rien d'autre qu'une question de politique pour occulter les affaires de corruption. Alors qu'en réalité, il y a une base très forte. Et c'est ça la grande force de la Catalogne. C'est cette base si forte qui a permis que cela dure depuis si longtemps. Dans le fond, ce qu'ont fait les politiques catalans, c'est de récupérer cette base citoyenne. Et c'est ça qui inquiète réellement Madrid.
Tout a commencé en 2012, lors de la Diada, la fête régionale catalane du 11 septembre. Cette grande marche annuelle canalise alors la colère des Catalans contre la Cour constitutionnelle. En 2010, ce tribunal réduit à néant le statut d'autonomie de la Catalogne, pourtant approuvé par le Parlement de Madrid 2 ans plus tôt. L'Assemblée nationale catalane réussit à mobiliser 1,5 million de Catalans dans les rues de Barcelone pour dénoncer cette décision. Pour y parvenir, cet organisme s'appuie sur un militantisme actif, propre de la société catalane, comme l'explique Carmé, membre de l'Assemblée.
La société catalane est une société de réseaux, de communautés et associatives, mais aussi solidaire, malgré ceux qui pensent qu'on ne l'est pas, parce que l'on veut se déconnecter du reste du pays.
L'Assemblée, qui jouit d'une grande influence, parvient ensuite à modifier le programme des nationalistes modérés, alors au pouvoir. Subjugué par la force de mobilisation de ce réseau social, l'ex-leader Artur Mas adopte un discours indépendantiste plus porteur politiquement, quitte à laisser sur le carreau des milliers d'électeurs opposés au séparatisme. C'est lui qui organise la première consultation populaire sur l'indépendance en novembre 2014, sans reconnaissance légale par Madrid, tout comme le référendum de dimanche. L'Assemblée y jouera un rôle fondamental.
C'est une organisation qui a fait de l'indépendantisme son drapeau. S'il n'y avait pas d'indépendance, elle n'existerait pas. Ils sont très partisans du oui et de rien d'autre. Et ceux qui ne pensent pas pareil ne sont pas bien vus.
Toute la Catalogne n'obéit pas à la lame de fond indépendantiste. La société catalane est elle-même profondément divisée, mais une très large majorité, près de 80% selon les derniers sondages, aimerait pouvoir trancher la question de l'indépendance de façon légale et souhaite également entamer un dialogue avec Madrid.
Et le chef de l'exécutif catalan, Carl Puigdemont, a demandé une médiation internationale, en l'occurrence de l'Union européenne, pour résoudre la crise. En Serbie, c'est la presse qui se mobilise contre un pouvoir corrompu. En fin de semaine dernière, tous les médias ont choisi de faire leur une en noir, une façon d'alerter les citoyens sur ce que serait leur pays sans information indépendante. À Belgrade, Philippe Bertinchamp est allé rencontrer des journalistes harcelés par le pouvoir, mais qui résistent encore.
Stop medijskom mraku. Za slobodu medija. Stojim uz Vranjske.
Écran noir à la une de la presse indépendante en Serbie. Ça ressemble à ça quand il n'y a plus de médias libres. Stop à l'obscurité des médias. Jeudi 28 septembre à midi, quelques 150 médias et organisations serbes ont mis leur programmation en suspens pour lutter contre, je cite, « le paroxysme des attaques contre la liberté de la presse ». En cause, selon les organisateurs, la fermeture brutale de l'hebdomadaire Vranjske Noviny, pilier de la presse régionale indépendante depuis plus de 20 ans, ainsi qu'une campagne de lynchage médiatique contre le rédacteur en chef du site d'investigation CRIC. Dragan Janic est le vice-président de l'Association des journalistes indépendants de Serbie. Pour lui, la fermeture de Vranjske Noviny est la conséquence directe des aides publiques qui lui ont été coupées, une décision politique contre un média gênant.
Vranjske Noviny a toujours été en conflit avec les autorités locales. Déjà à l'époque de Milosevic, quand il a été fondé, il était dans l'opposition. De même, après la chute du régime. Et aujourd'hui encore, il est en conflit avec le pouvoir. Mais c'est la première fois qu'il n'a d'autre choix que de fermer, sans aucune autre issue.
Mogle da nađu nikakav izlaz.
Još uvijek nije jasno odakle ministru Aleksandru Vulinu 250.000 evra za kupovinu stana od 107 kvadrata u Beogradu.
Sve sam rekao, tužilaštvo mi to ne jednom.
Au même moment, Stefan Dolcinovic, rédacteur en chef de CRIC, un site indépendant d'information bien connu pour ses enquêtes fouillées sur des affaires de corruption et depuis longtemps dans le collimateur du gouvernement, a fait l'objet d'attaques de la part du mouvement des socialistes, un parti de la coalition au pouvoir. Son crime, avoir révélé des malversations financières, plus de 200 000 euros cash, lors de l'achat d'un appartement à Belgrade par le ministre de la Défense, Aleksandar Vulin. Jelena Vasic est journaliste à CRIC.
Tout de suite, le parti du ministre, le mouvement des socialistes s'est mis à nous attaquer publiquement. Ce jour-là et les jours suivants, il a publié des déclarations odieuses contre CRIC et notre rédacteur en chef, l'accusant d'être un toxicomane et un mercenaire à la solde de l'étranger. C'est le genre de pression auquel nous faisons face quasiment chaque fois que nous publions une enquête importante. Mais cette fois, il s'agit d'une des plus brutales campagnes de calomnie que nous ayons dû endurer en tant que rédaction.
Plus tôt, d'autres journalistes indépendants, mais aussi des acteurs de la société civile, accusés à tort de fomenter un coup d'État et de vouloir tuer le président Vučić, avaient eux aussi été la cible d'insultes proférées par Informer, un tabloïd à la botte du gouvernement, des attaques reprises plusieurs jours durant par la chaîne privée de télévision Pink, la plus populaire en Serbie. Leur tort, avoir soutenu un mouvement d'opposition et osé critiquer les dérives autocratiques du pouvoir lors d'une intervention publique. Radomir Dikric est le directeur de Beta, une agence indépendante d'information.
Les informations levées pourraient être embêtantes pour les autorités, parce que si vous voulez faire l'impression à l'opinion publique que tout marche à merveille, si vous avez des infos qui disent que ce n'est pas vraiment comme ça, ça énerve les autorités. Tout de suite, on vous colle un label, les traîtres ou je sais pas quoi, malveillants, sauf que jamais personne n'a démenti ce que nous avons dit.
Pour se financer, l'agence Beta, comme beaucoup d'autres médias, dépend en grande partie des subventions des autorités locales contrôlées par le parti au pouvoir. Or, du jour au lendemain, celles-ci ont décidé de ne plus lui accorder un sou. Au lieu de quoi, elles se sont mises à parrainer une myriade de petits médias locaux, journalistiquement bidons. Quant aux sponsors privés, ils disparaissent aussi dans la nature.
Dans un pays appauvri comme le nôtre, il n'y a pas de marché. Et là encore, nous avons eu les échos de certains de nos clients. Aujourd'hui, ce sont les ex-clients qui nous ont dit, quand même, on est des collègues, en toute confidence, qu'ils ont eu l'ordre d'abandonner l'abonnement à Beta. Ils vont jamais vous dire de qui vient l'ordre, mais nous, on peut imaginer.
Dans ces conditions, est-il encore possible d'exercer librement son métier de journaliste en Serbie?
C'est possible, mais le prix est très élevé. Vraiment, il faut avoir beaucoup de courage, mais pas uniquement courage envers les autorités, tout ça, mais le courage d'affronter la vie quotidienne avec vraiment le salaire de misère.
Stop, medijskom mraku.
Alors que dans les médias dominants, le président serbe Aleksandar Vučić monopolise à peu près l'entièreté du temps de parole, les associations de journalistes nourrissent bien peu d'illusions sur le résultat de leur action. En désespoir de cause, elles appellent malgré tout les citoyens et la société civile à plus de solidarité, en s'impliquant davantage dans la lutte pour la défense de la liberté de la presse et du droit d'expression, des principes de la démocratie qu'elles jugent indéfectibles. Elles demandent aussi, et surtout, aux institutions européennes de cesser de fermer les yeux sur les graves problèmes auxquels les professionnels des médias en Serbie sont aujourd'hui confrontés.
Związek, to praca chłonna, blisko, zawiło,
Rentrée scolaire décidément chamboulée en Pologne. Il faut dire que le gouvernement populiste conservateur n'a pas lésiné sur la réforme. Il a tout simplement supprimé les collèges. On passe désormais de l'école primaire au lycée. De nombreuses associations de parents d'élèves dénoncent une décision surtout idéologique qui permet de bouleverser les programmes et les manuels scolaires. C'est donc la mobilisation à Varsovie. Reportage de Maya Szymanowska.
Alors que la cloche sonnait pour les enfants dans les écoles polonaises, la rentrée s'est faite pour les parents et les professeurs dans la rue. Au début du mois, ils se sont donné rendez-vous devant le ministère de l'Éducation pour exprimer leur ras-le-bol.
Je suis ici pour protester contre ce qu'on appelle non pas la réforme, mais la déformation de l'éducation qui se fait sur le dos de nos enfants.
Dans la foule, Dorota Oboda est venue dénoncer les nouvelles normes de l'éducation nationale polonaise. Une de ses filles subit de plein fouet la révolution scolaire. Elle n'ira pas au collège qui disparaît cette année au profit d'un enseignement en deux étapes, le primaire et le lycée. L'école primaire va durer désormais 8 ans et non 6. Pour le gouvernement, cela aidera à lutter contre la violence présente dans les anciens collèges. Dorota n'est pas d'accord. Elle a créé une association pour lutter contre ces changements, appelée Rodzice contra Reforma Edukacji, les parents contre la réforme de l'éducation nationale.
Nous protestons contre la réforme de la ministre Anna Zalewska, car c'est une réforme qui est introduite d'une manière scandaleuse. Trop rapidement, contre l'avis des parents, contre l'avis des professeurs, sans aucune consultation.
Effectivement, le gouvernement n'a consulté personne. L'association Les Parents contre la Réforme a lancé une grande action pour demander un référendum sur la disparition des collèges. Ils ont récolté plus de 900 000 signatures, bien au-delà des 100 000 requis pour déposer un projet citoyen à l'Assemblée. Mais leur demande et les milliers de signatures ont fini à la poubelle. Le gouvernement fait la sourde oreille à la colère des parents. Explication de Dorota Oboda.
L'une des raisons majeures de cette réforme, c'est de pouvoir changer les manuels scolaires pour qu'ils s'accordent à leur vision du monde. Mais tout cela est fait de manière caricaturale.
Cette réforme réécrit l'histoire à la manière des conservateurs, en taisant les événements honteux dans l'histoire nationale et en exaltant les hauts faits patriotiques. Ainsi, les élèves de 10 ans apprendront l'existence des soldats maudits, ces mouvements de résistance polonais des années 50 qui luttaient contre le communisme. Mais on passera très vite sur Lech Walesa, l'ancien leader de Solidarność, qui n'est pas en ce moment en odeur de sainteté auprès des conservateurs au pouvoir. En biologie, les adolescents ne découvriront pas la théorie de l'évolution, car l'apparition de l'homme sera enseignée en cours de religion. Côté littérature, les jeunes auront aussi des surprises. Agnieszka Grudzińska, professeure de littérature, examine, étonnée, la nouvelle liste des lectures obligatoires.
C'est la liste des lectures obligatoires qui suscite le plus de débats. Et surtout, l'apparition sur cette liste d'une sélection de poèmes de Wojciech Wenzel, un auteur peu connu appelé le barde de la catastrophe de Smolensk. Il a écrit pour la Gazeta Polska, une feuille de chou nationaliste et pro-gouvernementale. Il est l'auteur d'un poème intitulé Nous, le peuple de Kaczyński. Nous voyons déjà dans quel sens va cette réforme. Le fait que la poésie de ce Wenzel soit obligatoire est terrifiant.
Wojciech Wenzel est en effet le chouchou du pouvoir. Il vient d'être décoré par le président Andrzej Duda pour sa contribution en tant que défenseur de la langue polonaise au grand dam du Conseil de la langue polonaise, une institution semblable à l'Académie française. Wojciech Wenzel s'est rendu célèbre le jour de la catastrophe de Smolensk qui a emporté en 2010 l'ancien président Lech Kaczyński et 95 hauts dignitaires d'État. Ce jour-là, le poète proche du pouvoir a pris la plume pour pendre un poème de circonstance. La Pologne n'est pas morte tant que nous mourons. Ainsi commence son poème qui singe l'hymne national. Puis, plus loin, la nation est victorieuse avec son Dieu seulement quand la mort dépose un baiser sur son front.
La liste des lectures obligatoires ne mentionne plus l'écrivain d'origine juive Bruno Schulz, ni le reporter Jerzy Kapuczynski. Ça ferme les horizons de la jeunesse. On évacue l'étrangeté, le monde onirique est trouble, ni blanc ni noir présent dans la prose de Bruno Schulz. On ne veut plus de la figure de l'autre qui obsède Kapuczynski. Le nouveau programme ne s'ouvre pas à la différence, à l'autre, ne suscite pas la curiosité, n'apprend pas le sens critique. Ça fera des élèves qui ne doivent pas réfléchir, des élèves qui doivent surtout, je dirais, obéir.
Une réforme jugée idéologique car le système précédent faisait ses preuves. La Pologne a connu une sorte de miracle éducatif qui lui a permis de progresser rapidement dans les études internationales et le classement PISA. En 2012, la Pologne s'est classée largement au-dessus de la moyenne européenne, ce qui augmente de temps aujourd'hui l'incompréhension et le désespoir des parents. Le gouvernement refuse de faire marche arrière. Le climat social à Varsovie risque d'être très tendu cet automne.
Génial, Ленинское предвидение сбылось.
Drôle d'anniversaire en Russie pour les 100 ans de la révolution de 1917. Le gouvernement Poutine souhaite tout sauf un grand débat national. C'est le constat que fait Courrier International dans son numéro spécial Russie, les héritiers de la révolution. On y apprend comment Staline reste une des figures les plus populaires du pays aujourd'hui, mais aussi comment le Kremlin essaie de réinterpréter l'histoire à son avantage en présentant la révolution de février 1917 comme une rupture libérale, alors qu'octobre 1917, la révolution bolchévique, se placerait dans la continuité de l'histoire. C'est ce qu'a expliqué Laurence Abbé, rédactrice en chef de ce numéro spécial, à Catherine Roland.
Je pense que c'est le point le plus étonnant, en tout cas pour des Occidentaux qui ont l'habitude de percevoir la révolution russe d'octobre comme une rupture fondamentale, c'est que le régime actuel fait le lien entre l'Empire et la révolution bolchévique, et il désigne la révolution de février, qu'il qualifie de révolution bourgeoise, ça n'a pas changé, comme un accroc un peu dans cette continuité, et la met, cette révolution de février, qui a donc duré 7-8 mois, la met en parallèle avec les années 90, la chute de l'URSS et surtout l'advenue de Boris Eltsine au pouvoir. Le régime actuel considère que ces deux périodes sont des accrocs dans cette continuité historique parce que c'était des tentatives de révolution libérale, bourgeoise et pro-occidentale.
Autre constat, c'est Boris Kargalitsky, un historien russe, qui le fait dans ce numéro de Courrier. Il note que la figure de Staline est restée très très populaire malgré les horreurs commises sous son règne, et même, on peut dire quelquefois, très populaire avec les horreurs commises.
Alors, c'est vrai que cette figure de Staline, elle a toujours pas quitté les esprits, puisque, comme le dit cet auteur, Boris Kargalitsky, et qui s'appuie sur les sondages, ça serait la première figure politique du panthéon russe actuel auprès des Russes. Il dit même que si Staline participait à la prochaine présidentielle qui doit avoir lieu en 2018, eh bien il battrait Poutine, et c'est le seul qui serait capable de battre Poutine.
Mais n'y a-t-il pas aussi une forme de nostalgie, de miroir déformant dans le style « c'était mieux avant » ?
Oui, alors justement, les Russes, si ils plébiscitent Staline, donc ce qui est une posture imaginaire, c'est-à-dire que Staline est un leader virtuel, eh bien ce n'est pas tant par nostalgie que pour signifier leur opposition au régime actuel. Comme s'ils n'avaient pas d'autre recours pour exprimer cette opposition que de faire référence à un leader, le seul qui, à leurs yeux, conjuguait la puissance et la protection et qui a, puisque tout ça relève du passé, obtenu des résultats concrets.
Alors, autre analyse et constat assez pessimiste, qui rejoint un petit peu ce que vous venez de dire, c'est que 100 ans après cette révolution bolchevique, finalement, malgré les tentatives de Poutine, la société russe n'est toujours pas réconciliée.
Non, la société russe n'est pas réconciliée, et on peut le comprendre, parce que les générations qui se sont succédées depuis, eh bien, n'ont rien oublié, et la mémoire est là. Il y a des descendants de victimes du stalinisme, il y a des descendants de bourreaux du stalinisme, et dans les mémoires et aussi dans les inconscients, tout cela est toujours actif.
Russie, les héritiers de la révolution, un numéro spécial de Courrier International. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. À demain.